bienvenue dans la deuxième partie d'Onde Noire. Et d'abord, dans l'actualité, un festival, un de nos préférés, un des plus grands festivals en France consacré à notre littérature de prédilection, c'est le FIRN, autrement dit le Festival International du Roman Noir à Frontignan. Frontignan dans l'Hérault, près de Montpellier.
Et le 7, en fait.
Et le 7, voilà, entre les deux. Cela se passera le week-end. En fait, les animations sont toute la semaine, mais pour les gens qui écoutent cette émission, le point d'orgue, en quelque sorte, c'est le week-end du 25, du vendredi 25 au dimanche 27 juin. Un thème chaque année, cette année, mémoire intime et histoire collective, un thème qui peut se décliner sous bien des formes dans le roman noir actuel, et des grands noms comme chaque année, en particulier David Peace. Des noms peut-être moins connus, mais dont on vous a parlé. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on vous a parlé d'un formidable bouquin de Percy Kemp, Noon Moon. Percy Kemp sera à ce festival. Il y a quelques mois, on vous a parlé d'un premier roman qui nous avait beaucoup, beaucoup impressionné, qui est un roman d'Ingrid Astier, s'appelle... je ne me souviens plus, mais...
Quais de l'Enfer.
Voilà, Les Quais de l'Enfer, d'Ingrid Astier à la série noire. Voilà, on peut retrouver aussi Simon Lewis, mais aussi Jean-Bernard Puy, Stéphanie Benson. En gros, une cinquantaine d'auteurs qui vont débattre autour de ce thème et que le public pourra rencontrer pour des signatures et des discussions. Une que ne rencontrera pas, puisqu'elle est au fin fond des États-Unis, mais dont je veux absolument vous parler, c'est Diana Abou-Djaber. C'est son premier roman traduit, c'est son troisième écrit, mais c'est son premier roman traduit en français, un roman qui s'appelle Origine. C'est paru très récemment chez Sonatine, une édition qu'il va falloir suivre d'un œil attentif parce qu'elle nous offre de bien belles surprises en ce moment. Et c'est un roman traduit par Edith Ox. Personnage principal de ce thriller, une scientifique, Léna, de son prénom, experte en empreintes judiciaires. Elle travaille donc, dans un laboratoire scientifique. Un récent succès l'ayant fait connaître, une mère vient la supplier, on va dire presque la harceler, afin de trouver l'origine, première fois m'origine, de la mort de son bébé. En gros, on a conclu, il aurait été victime de la mort subite du nourrisson, mais Erin Kogan, donc la maman, croit à un homicide. Et très vite, Léna est sur la piste d'un serial killer qui s'en prendrait à des nourrissons. Étonnant. Si l'on résume ce roman à l'intrigue et à ce personnage de scientifique, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau ni d'original. Déjà Patricia Cornwell a déjà, avec Kay Scarpetta, qui est une médecin légiste, des scientifiques qui se retrouvent personnages récurrents dans le polar, il y en a pas mal. Mais l'intérêt de ce livre réside dans la personnalité particulièrement tourmentée de la narratrice Léna. Là encore, me direz-vous, du déjà vu. Personnage dépressif, malmené par la vie, il y en a pléthore. Mais en fait, les errances de Léna sont dues à son origine. Et là commence à pointer l'originalité. C'est une enfant adoptée et elle est hantée par des souvenirs étranges où des singes lui tendent la main, où une forêt vierge semble l'entourer. Cette perte ou ce manque total d'identité la ronge, lui pourrit les relations avec ses proches et les investigations qu'elle mène sur ses victimes au berceau font ressurgir ses cauchemars. Les mères éplorées, en fait, lui renvoient constamment son état d'orpheline et vont la faire basculer dans une semi-folie. Et c'est en cela que le roman devient passionnant, cette quête d'identité, cette envie éperdue de connaître ses origines, d'où le titre évidemment. Et le suspense n'est plus de connaître l'éventuel meurtrier, même s'il y a quand même une enquête et une intrigue qui nous prend. Mais bien les biens, le suspense est de savoir si les souvenirs de Léna sont réels ou totalement dans son imagination. Diana Abou-Djaber, son nom n'est pas facile à prononcer, s'approprie un thème récurrent du roman noir, donc la quête d'identité, mais elle le traite d'une manière très originale et très intéressante. Elle bascule à la fois l'intrigue, donc on passe de l'enquête autour de la mort de ses nourrissons à l'enquête au cœur même de la tête de son personnage, Léna, mais elle bascule aussi souvent la réalité pour nous plonger dans un monde mystérieux, onirique, une atmosphère particulière pour un roman noir, et c'est vraiment une réussite totale. Comme je l'ai dit, c'est le premier roman traduit de cet écrivain américain. On espère qu'il aura assez de succès pour que les deux autres le soient bientôt, qui sait, chez Sonatine, son premier éditeur français. Donc, Origine, et j'ai peut-être oublié de dire que c'est traduit par Edith Ox.
Non, tu l'as dit, mais c'est bien de le répéter.
Oui, les traducteurs ont beaucoup d'importance en ce moment dans les bons romans noirs. Un peu de musique peut-être ?
Un petit peu de musique, une musique en forme de générique, de jingle pour annoncer notre prochaine chroniqueur qui va nous rejoindre au téléphone. Et ce morceau, c'est Mustang Sally. Et la version cette fois-ci, c'est celle de Wilson Pickett.
Sally, une autre version pour accueillir Jean-Marc Lehrer. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver après quelques mois d'absence, mais beaucoup d'interviews ont fait qu'on n'a pas pu avoir cette chronique trop régulièrement. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir ?
Mais disons que pour terminer la saison en beauté, je vais vous parler du dernier roman de Donald Westlake traduit en français, qui s'appelle Surveille tes arrières. C'est un roman de la série John Dortmunder. C'est traduit, comme tous les derniers de cette série, par Jean Hesch. Et c'est encore un petit bijou. Voilà.
Alors, on va peut-être présenter un peu le personnage de John Dortmunder.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, il faudra absolument lire toute la série. John Dortmunder est new-yorkais, il est cambrioleur. C'est un cambrioleur absolument génial, qui fait extrêmement bien son travail, mais qui est le cambrioleur le plus malchanceux, je pense, du monde.
Et du roman noir actuel.
Et du roman, assurément. Donc, il prépare des plans absolument géniaux, et il y a toujours le petit grain de sable qui fait tout déraper, mais comme il est quand même... Alors, c'est un personnage toujours un peu triste, toujours un peu défaitiste, mais il se sort toujours d'affaires, quand même. Même dans les situations les plus périlleuses dans lesquelles il puisse se mettre, il se sort toujours d'affaires, lui et sa bande de bras cassés, parce qu'il est...
Voilà, parce qu'il y a aussi les copains.
Voilà, il a tous ses copains, donc elle, puis il y a une grosse brute qui s'appelle Petit. Il y a un chauffeur, bien sûr, comme dans toute équipe de cambrioleurs qui se respecte, il y a un chauffeur.
Avec une maman derrière, le chauffeur, il a sa maman derrière, souvent.
Et avec sa maman, qui est chauffeur, ils sont chauffeurs de taxi tous les deux aussi, quand ils ne sont pas en train de faire des coups avec John Dortmunder. Ils ont tous des, ils sont tous mariés, ou au moins ils vivent en concubinage, parce que c'est des gens qui ont une vie très normale.
Oui,
ils
parce que tout
le
temps.
Que leur gagne-pain, c'est de cambrioler les appartements, les musées, etc. Et donc, ça fait quand même, ce personnage est apparu dans un roman qui s'appelait Pierre qui roule, où il était obligé de voler 5 fois la même pierre, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il réussissait un cambriolage chaque fois plus fabuleux que le précédent, mais la pierre lui échappait quand même. Ce personnage. Et là, dans Surveille tes arrières, ça a l'air très facile au départ. Parce qu'autour de ce petit groupe de personnages, il y en a un qui est le receleur habituel de John Dortmunder, qui s'appelle Arnie, et il est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'il est tellement insupportable que dans son appartement, il n'y a pas de fenêtre, parce que quand on est avec lui 5 minutes, on a envie de le jeter par la fenêtre. Et Arnie, sous la pression de sa famille, est allé passer 15 jours dans les Caraïbes en se demandant si ça allait le changer. Effectivement, il est changé. C'est-à-dire qu'il a changé de couleur. Bon, il est un peu moins insupportable. Mais surtout, il revient avec un coup immanquable. C'est qu'aux Caraïbes, il a trouvé quelqu'un de plus insupportable que lui, qui est un dénommé Preston, milliardaire, qui est obligé de rester coincé là parce que ses ex-épouses aux États-Unis se sont liées pour essayer de lui piquer toute sa fortune, et sa seule façon de s'en sortir, c'est que les avocats ne le trouvent pas. Donc il est aux Caraïbes, et comme il s'ennuie et qu'il est lui volontairement insupportable, il a pris Arnie comme victime. Donc il a été horrible avec lui, mais ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en même temps, il lui a donné en gros le mode d'emploi pour lui cambrioler son superbe appartement de New York.
Donc là, ça a l'air d'être un braquage facile.
Braquage facile, rien ne peut rater, sauf que... Alors, il y a le premier grain de sable, c'est qu'il faut savoir que John Dortmunder et toute sa bande se réunissaient toujours dans l'arrière-salle du même bar pour préparer leur coup. C'est Logie Bar and Grill. Or, Logie Bar and Grill leur est fermé, leur est interdit, parce qu'il semblerait que la mafia ait mis la main dessus. Donc, avant de s'occuper du cambriolage, il va falloir commencer à s'occuper de se débarrasser de la mafia et vérifier ce qu'ils veulent faire avec ce bar. Et c'est là, bien entendu, que tout va commencer à se compliquer.
Et qu'il va avoir malchance sur malchance, ce brave Dortmunder.
Voilà. Alors, ce Dortmunder, certains pourraient y voir un petit Dortmunder, dans le sens qu'il est peut-être moins délirant, moins spectaculaire que certains, où il est obligé d'aller récupérer des trésors engloutis sous des barrages, sous l'eau de barrages, ou bien de voler des eaux dans des musées, c'est des choses délirantes. Mais, si on regarde bien, on s'aperçoit d'abord qu'on rit beaucoup. Mais bon, on a l'habitude avec...
On a l'habitude avec Westlake.
Oui. Les personnages, les situations, les dialogues sont extraordinaires. Ça coule de source, au point qu'on a l'impression que c'est simple d'écrire comme ça.
Eh oui.
C'est l'impression quand on lit Westlake, on se dit, c'est facile. Sauf qu'il n'y a qu'un Westlake, donc ça ne va pas être si facile que ça. Et puis surtout, l'intrigue, elle fonctionne sous le principe de... Il y a plein de petites choses qui se mettent en place qu'on ne voit pas venir. On ne comprend pas quels liens elles ont les unes avec les autres. Et c'est un peu les dominos à la fin. Il y a un domino qui s'écroule et ça fait s'écrouler toute une structure magnifique qu'on n'avait pas vu se construire et qui n'est révélée qu'au moment où elle explose. Et ça, c'est vraiment du grand art. D'arriver à fabriquer ça, c'est absolument extraordinaire.
Ça, Donald Westlake, en dehors de son humour, c'est vrai qu'il sait aussi tricoter des intrigues. C'est quelque chose dont on ne parle pas si souvent que ça au sujet de Westlake. Il tricote des intrigues qui se tiennent, mais du début jusqu'à la fin, et avec des détails qui font sens juste à la fin, quoi.
Voilà. Et plus elles semblent invraisemblables, plus elles se tiennent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là, alors, les Dortmunder ne fonctionnent pas tous sur le même principe de l'humour, si ce n'est qu'il a de la malchance, que ça rate. Là aussi, c'est qu'il a de très très réussi, c'est que Westlake donne toujours, en gros, un ou deux chapitres d'avance au lecteur sur les personnages, en leur montrant qu'est-ce que c'est qui va faire foirer la prochaine étape. Et donc, c'est très drôle, parce qu'on rit par anticipation, on rit d'avance de voir dans quoi ils vont se fourrer, et comme Westlake est très très fort, en plus, on sait que la tuile va leur tomber dessus, mais elle ne tombe jamais exactement là où on l'attendait. Donc on rit une deuxième fois sur le chapitre suivant quand la tuile tombe pour de bon. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc si j'ai un conseil de livre à vous donner pour partir, passer de bonnes vacances, prenez Surveille tes arrières de Donald Westlake. Il n'y a pas de doute.
Surtout que j'ai vu que dans les dernières pages du roman, les éditions Rivage ont eu la bonne idée de publier la chronologie complète des aventures de Dortmunder. Donc, ce qui est pas mal, ça nous permettra en même temps de voir, d'espérer qu'il y en a déjà au moins trois qui sont pas encore traduites, donc on les aura peut-être à lire plus tard, et on peut les lire maintenant, on peut éventuellement les lire dans l'ordre chronologique.
Voilà, surtout que Rivage a eu l'excellente idée aussi de rééditer ce qui n'était plus très facile à trouver, les premiers.
Oui, j'allais parler de Pierre qui roule, justement, qui a été réédité chez Rivage Noir.
Oui, exactement. Et donc, on s'aperçoit que je crois que c'est le second de la série qui va être réédité l'année prochaine. Et ensuite, il en restera un ou deux à traduire de plus. Et puis après, malheureusement...
Et malheureusement, Westlake nous ayant quitté un 31 décembre, oui. Très mauvais réveillon, on ne pourra plus se réjouir de sa plume, d'une inventivité et très prolifique. C'est une merveille. Oui. Mais heureusement, il y a au moins 20 romans traduits, parce qu'il y a la série d'Ortmunter. Il y a une autre série où là c'est beaucoup plus sérieux, où il écrit sous le pseudonyme de Richard Stark.
Oui.
Là je peux pas vraiment parler parce que j'ai pas encore eu la chance de les lire ni le temps de les lire, mais il y a aussi beaucoup d'autres romans où il n'y a pas de personnages récurrents. Là, Rivage vient de faire paraître deux romans qui sont ni d'une série ni de l'autre, avec des personnages, des one-shot comme on dit.
Voilà. Et si j'avais un roman à conseiller parmi les romans humoristiques de Westlake hors série, je crois que je conseillerais Aztec dansant,
oui.
Qui est paru il y a longtemps chez Rivage Noir, qui est absolument extraordinaire et qui a un prologue qui est peut-être une des plus belles descriptions de New York que j'ai jamais lu. Et pourtant, Dieu sait si New York a été décrit par les écrivains et par les écrivains de polar en particulier.
Et par de très très bons écrivains. Alors moi, je vais y aller aussi de mon petit conseil, et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais conseiller un des bouquins les plus sérieux de Donald Westlake, qui a d'ailleurs donné lieu à une adaptation cinématographique. C'est un roman qui s'appelle Viax, dans la version originale, c'est-à-dire Le Couperet. Et là, c'est un roman noir qui nous plonge dans une réalité sociale terrifiante. Et c'est un excellent roman noir.
Terrifiante et d'actualité, malheureusement.
Malheureusement.
Et de plus en plus d'actualité.
Eh bien, Jean-Marc Laherrère, merci beaucoup de tous
merci
ces conseils
vous.
Au cours de l'année. Et on essaie bien vous retrouver à la saison prochaine.
J'espère bien. Bon
été, plein de bonnes découvertes de lecture et à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci, au revoir. Donc, Donald Westlake, Pierre qui roule, oui, comme je le disais, réédité, je crois, l'année dernière, en Rivage Noir. C'est bien de commencer par celui-là, même si celui-là, celui dont vient de parler Jean-Marc, est aussi un excellent roman. Et finalement, on voit pas beaucoup évoluer les personnages. Donc, c'est
oui,
bien de les prendre.
Non, on peut les lire, effectivement, dans n'importe quel ordre. Il y a un moment où il sort de prison, il y a un moment où il y rentre, mais bon, c'est pas particulièrement... S'il y a un moment où il n'a pas sa compagne, et puis ensuite elle l'accompagne, mais elle l'accompagne pendant presque tous les autres romans.
Voilà.
L'accompagne.
Ça va, on doit comprendre. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les arcanes du polar, je voudrais quand même préciser que les éditions Payot Rivage ont deux collections de polars, de romans noirs dirigés par François Guérif. Une, on va dire, grande collection, romans entre 19 et 22 euros, qui sont des inédits. Et une deuxième collection, on va dire deux poches, moyen poche, entre 7 et 11 euros, où on trouve des inédits, mais aussi beaucoup, beaucoup de rééditions. Voilà, je terminerai par deux rééditions. Malheureusement, je vais dire, parce que c'est deux grands du roman noir français qui nous ont quittés cette année. Et Folio Policier ressort donc quatre romans en un même... volume de Thierry Jonquet, avec deux de ses meilleurs romans, enfin pour moi, deux de ses meilleurs livres de Thierry Jonquet, qui sont Moloch et Les Orpailleurs. Il y a aussi Migal. Et puis Zulma réédite dans un autre très beau volume trois romans de Pascal Garnier. Ça s'appelle Les Insulaires et autres romans. Ce sont des romans qui étaient parus au tout début de la carrière littéraire de cet écrivain qui nous a quittés au printemps. Et Zulma a l'excellente idée. Le dernier est sorti au mois de mars. Le dernier inédit de Pascal Garnier est sorti au mois de mars. Et de ressortir ces trois romans. Donc ça s'appelle Les Insulaires et autres romans. Et chez ces Zulma éditeur.
Et tu parlais de Migal, et il me semble bien que
ça y est, c'est
Pedro
fait,
Almodovar voilà. a fini par euh, fi, finir de faire son, de, ou de faire faire sur le scénario, et donc apparemment le projet est en train d'être...
Ça fait 2 ans qu'on en parle.
Bah oui, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais il a remis parce qu'il apparemment il y a des problèmes dans l'écriture du scénario ou dans la mise au point du projet. Ça, on n'en sait trop rien. On n'y était pas avec lui à ce moment-là, donc.
Ce qui peut se comprendre.
On n'a que les conjectures de IMDb ou de Allociné pour vous le dire.
Voilà. Alors on va vous souhaiter, on va se terminer en vous souhaitant un bon été, plein de bons livres. On vous souhaite d'aller passer quelques moments chez votre libraire favori ou qui sait dans une bonne bibliothèque. Ce sont des endroits climatisés si jamais il fait trop chaud. Et puis de trouver, que ce soit dans des collections de poche ou dans nos favoris, plein de petits bijoux et de perles à lire pendant une période où on a quand même un petit peu plus de temps pour lire. Donc c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir.
Voilà, et si jamais vous avez raté quelques-unes de nos émissions, ce que je ne pense pas, mais on sait, au cas où, vous pouvez toujours les réécouter sur le site www.ondenoire.com.
Voilà, bon été, merci beaucoup, à la saison prochaine.